Jazz Libre, Radio Libertaire, donc 89.4 et DAB+. Alors, j'avais choisi évidemment le précédent titre parce que Benny Maupin jouait de la flûte. Et donc là, nous allons l'écouter. Ah oui, juste, oh, j'ai complètement oublié de. En fait, je me suis trompé, le prénom du neveu de Lee Morgan s'appelait Raymond Darryl Cox. Voilà. Nous allons continuer avec un autre titre tiré du troisième CD, toujours le 10 juillet 1970, avec un deuxième titre qui est issu du troisième disque, du troisième CD. Donc on est toujours le 10 juillet, le vendredi 1970, et le titre qui a été composé par Benny Maupin, s'appelle Néophilia. Et donc celui-ci n'a jamais été publié, puisqu'il y avait une première publication un peu d'une sélection fine des meilleurs sur les trois CD qui étaient parus en 96, pardonnez-moi. Mais donc celui-ci fait partie des inédits, et donc Benny Maupin joue de la clarinette basse. Et Néophilia, ça c'est une sorte de néologisme qui veut dire les admirateurs de la nouveauté. Voilà. Et donc en fait, Benny Maupin, qui témoigne aussi dans le raconte qu'il était, je sais plus, dans le train, et que l'inspiration lui est venue comme ça sur le fait d'aimer la nouveauté. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 70 et que la tournerie rythmique, c'est-à-dire contrebasse, batterie, dont d'ailleurs tous disaient que cette rythmique entre Mickey Rocker et Jimmy Merritt était vraiment une Rolls-Royce. C'est-à-dire que ça tournait comme une locomotive. Benny Maupin dit, jouer avec des mecs comme ça, c'était vraiment une grande chance. Et il y a dans cette tournerie quelque chose qui me fait penser au groupe Magma. C'est-à-dire qu'en fait, Magma, je pense enfin, Christian Vander n'a jamais caché qu'il était admirateur d'Elvin Jones et qu'il a trouvé beaucoup de son inspiration dans Coltrane, etc. Mais y compris dans Magma, on retrouve un certain nombre de patterns, de boucles comme ça qui sont un peu inspirés. Je pense que il y a quelque chose, quoi, qui était dans l'air à cette époque, puisque Magma a été créé en 69, hein, donc il a commencé avec ça. Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu capillotracté ce que je vous dis, mais prenez-le comme c'est. Et voilà, entre l'inspiration, ce qui se fait, ce qu'on se trouve dans l'air, voilà, cette pulsion un peu de cette musique comme ça, un peu spiritualiste, voilà. Et donc là, ce que fait Benny Maupin à la clarinette basse, bah, c'est furibard. Je ne vous dis que ça. C'est parti.
Thank you.
Jazz Lib, Radio Libertaire. Alors on continue, je vous dirai d'autres choses après. On continue avec, alors là, le titre parle de lui-même, s'appelle Speedball. Je pense que c'est en plus à double sens. Hein. Speedball, c'est balle rapide, mais bon, je pense qu'il y a quelque chose lié à la dope derrière, qui est composé par Lee Morgan. Et je vous ai choisi, pardon, la quatrième version du CD4. Je crois que c'est la quatrième version, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça, qui a été enregistrée le samedi, non, toujours également le vendredi 10 juillet 1970. Bon, là, on est vraiment à un niveau extrêmement élevé. Franchement, je mets, pourtant, je suis très difficile, vous me connaissez, je mets les sessions du Plugged Nickel de 65 au sommet de tout, même au-dessus de Coltrane. Enfin, je sais que c'est, je vais me faire mal voir en disant ça, mais pour moi, c'est vraiment l'acmé de la musique du jazz. Enfin, pour moi, on n'a pas fait mieux. Mais je mets ce coffret quasiment au même niveau, quoi. Je veux dire, ça a pour moi le même sens, la même télépathie, la même spiritualité, la même dinguerie, la même folie. Enfin, c'est vraiment somptueux. Voilà, c'est parti.
Thank you. That was guest artist Jack DeJohnette of the Miles Davis Quintet. I guess the young man blowing like this was the last time he ever was get a chance to pick up his horn was Benny Maupin. Everything he knew, because he wouldn't get no more chances. And he ain't, because I'm going to put some arsenic on this reed. Hal Mayburn, our pianist, and Jimmy Merritt is our bassist. Mickey Roker is our drummer. We have two more days, and Blue Note Records. See that guy up there in the booth? Well, all that was on tape. And it will be the same way tomorrow and the following day. So if you can make it, try to. Since it's too late for alcohol, right on. Bye, y'all.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, j'ai mis dans mon programme qu'il y avait un essai comparatif. Alors, voilà. En réalité, nous allons passer un titre qui s'appelle « No Mo », qui a été composé par Jimmy Merritt. Et alors, ce titre a été enregistré une première fois sous l'égide du groupe de Max Roach, dans un album qui s'appelle « Drums Unlimited », c'est-à-dire « La batterie illimitée », dont notamment un thème qui s'appelle « Drums Also Waltzes », c'est-à-dire « La batterie peut aussi valser ». Et alors, ce thème No Mo, je voulais vous le faire écouter en premier pour voir comment Lee Morgan et Benny Maupin et ses amis s'emparent de ce thème de manière complètement dingue. Mais c'est intéressant parce que ce que fait Max Roach dans la version originale de No Mo est absolument incroyable. C'est-à-dire, à un moment donné, il se bat. En plus, là, c'est vraiment... Max Roach, qui est un virtuose de la batterie, dans ce thème, n'est pas extrêmement démonstratif. On pourrait presque être un peu dans l'esprit de Joe Morello, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne à l'économie, mais il se barre dans des tels méandres rythmiques absolument incroyables que c'en est dingue. Alors, c'en est d'autant plus dingue que ce morceau est composé en 7-4. Alors, vous allez me dire, 7-4, bon voilà, c'est un truc qui est pas rond, hein. C'est 4 plus 3, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, peu importe. Mais actuellement, depuis une dizaine d'années, beaucoup de jazzmen ont été un peu inspirés par Steve Coleman et les mesures impaires, des choses complexes, où moi ça me parle pas plus que ça, dans le sens où la mélodie est absente et... À mon avis, la musique, c'est avant tout la mélodie, mais bon, bref. Mais donc, et ce phénomène n'est pas nouveau, hein, puisque évidemment, Dave Brubeck et Joe Morello et compagnie avaient inventé aussi les choses, les mesures impaires en 3-4, 5-4, 7-4, voilà, vous me suivez. Donc, cet album de 1965, qui était enregistré en 65 et 66, et avec justement Jimmy Merritt à la contrebasse, puisque ce thème No Mo a été composé par Jimmy Merritt. D'ailleurs, dans les notes de pochette, il parle aussi beaucoup de spiritualité. En fait, No Mo, c'est un terme africain. Alors, il n'y a pas précisé, Max Roach, de quelle Afrique il s'agit, puisque l'Afrique, c'est grand. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de langues. Bon, bref, enfin, donc... En gros, pour résumer, le terme No Mo peut se traduire par le pouvoir des mots sur la réalité, en fait, la force du verbe, en fait, on va dire, sur la réalité. Bon, là, on se rend compte à quel point c'est tout à fait vrai. Et alors, cet album, Drums Unlimited, est absolument fantastique, puisqu'on retrouve à l'alto James Spalding, musicien sous-estimé lui également, un peu trop, qui joue de la flûte également. Il y a Jimmy Merritt donc à la contrebasse et qui a composé ce thème. Il y a Max Roach évidemment à la batterie. Au piano, il y a Ronnie Matthews. Et au soprano, on a aussi Roland Alexander et Freddie Hubbard qui vient faire cette petite apparition dans quelques titres. Alors vous allez voir donc ce thème qui est un peu bancal comme ça, mais qui finalement arrive à swinguer absolument génialement avec Max Roach qui nous embarque dans une aventure absolument incroyable, et comment ensuite Lee Morgan et Benny Maupin, Harold Mabern, Mika Rocker et Jimmy Merritt, qui évidemment là aussi, vont partir dans des endroits mais vraiment stratosphériques. Et ce qui est, comment dire, à mon avis, étonnant, c'est que Jimmy Merritt a dû agréer le fait de passer de la version de Max Roach 5 ans avant à celle-ci. Voilà. Donc je vous reprends dans une dizaine de minutes après ce comparatif qui me paraissait essentiel de vous faire écouter. C'est parti. Oui, pardonnez-moi, j'ai complètement oublié de vous dire une information extrêmement importante. Je vous ai d'ailleurs laissé la voix de Lee Morgan à la fin du morceau. J'ai complètement zappé. Il s'agit à la batterie, là, dans ce morceau, de Jack DeJohnette, qui était parti faire un petit tour avec sa famille dans le coin, et qui finalement a remplacé au pied levé Mickey Rocker. Donc c'était intéressant, c'était plus qu'intéressant, c'est un vrai document, d'avoir Jack DeJohnette à la batterie jouer juste. En fait, il est venu cette session et voilà. Donc, c'était vraiment un point particulier. Je vous ai choisi cette version spécifiquement pour ça, parce que c'est un morceau un peu comme un hymne reconnaissable, parce qu'il le joue plusieurs fois, mais dans des versions très courtes, expurgées 1 minute, 53 secondes, voilà, hein, très très peu. Et celle-ci, évidemment, est très très allongée. Je pense que la venue de Jack DeJohnette à ce moment-là a permis de rallonger un petit peu les formats habituels. Voilà, et toutes mes excuses. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, il faut également noter que les deux dernières années de sa vie, Lee Morgan s'était plus engagé politiquement. Alors, vous savez, je vous ai déjà expliqué ça, cette espèce de dualité et d'intrication entre foi spirituelle et engagement politique. Mais notamment, en 1969, la police avait tué un leader du mouvement Black Panther qui s'appelait Fred Hampton. Et Lee Morgan, avec d'autres, ont protesté et ont fait des concerts de soutien pour en faveur du mouvement des Black Panthers. Donc voilà, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant et important à noter qu'il s'était engagé là-dessus. Il est à noter aussi, et ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que dans le livret de Zef Hellman, dans ce coffret, il y a une carte postale de Lee Morgan qu'il a envoyée à sa famille, qui a été sûrement une carte postale qu'il a envoyée lors d'une tournée en France, qui était à Lyon, où il dit voilà, je passe du bon temps, j'essaye d'apprendre le français et nous sommes traités comme des rois. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que aux États-Unis, la parole des Noirs était quand même, ça n'a pas beaucoup changé finalement, malgré Obama, était quand même beaucoup plus prise en compte que là-bas, les musiciens étaient mieux traités quand ils venaient ici. Enfin, c'était toujours pour eux quelque chose de surprenant qu'on puisse ne pas faire appel au racisme ordinaire dans lequel ils étaient plongés. Donc c'est important de le noter parce que, comme disait, je ne sais plus, je crois, un des musiciens, je crois John Gilmour ou peut-être Freddie Barn, disait, je pense qu'on a tous été fichés au FBI à partir de ce moment-là. Non, je crois que c'est Gracchan Moncure III qui disait ça. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Et par ailleurs, il a continué à protester pour avoir plus de visibilité sur les médias, notamment à la télévision, puisqu'il a monté une association avec Roland Kirk, qui s'appelait, je crois, l'association pour... je ne sais plus exactement le titre de cette association, mais en tout cas, c'était pour la promotion de la musique noire au sein des médias, qui étaient évidemment essentiellement blancs. Et comme on savait à quel point, pareil, Roland Kirk était un peu sous pression. Voilà, je refais une... petite parenthèse à la parenthèse, le titre The Sidewinder, qui a été vraiment un tube complet, a été utilisé par la publicité pour les voitures Chrysler sans l'agrément de Lee Morgan. Et donc, en fait, il a comment dire, protesté. Je sais pas, je pense qu'il y a dû y avoir un arrangement quelconque avec Chrysler ou simplement Chrysler a dû arrêter de passer la publicité. Mais en tout cas, ça a été une vraie rampe de lancement inattendue. Ça l'a même un peu amusé de savoir ça. Voilà. Voilà. Oui, j'ai retrouvé le nom. Ça s'appelle Jazz and People's Movement. Donc, c'était un mouvement pour avoir dans les émissions de variété ou musicales sur la télévision américaine, d'avoir plus de représentation du jazz notamment. Voilà, donc nous allons maintenant écouter la version de Nomo par ce groupe absolument fantastique. Vous allez voir, non pas que ça n'a rien à voir, mais ça prend une autre tête, mais alors absolument incroyable. Et même à tel point que vous avez entendu dans la version de Max Roach avec James Spalding et compagnie qu'à un moment donné, ça s'arrête, il y a un break, ce qu'on appelle un break, et puis ça reprend. C'est une rupture très nette. Alors que là, dans la version de Lee Morgan, en fait, c'est pas un break. En fait, il joue vamp, c'est-à-dire sans rythmique prédéterminé. Ça flotte un peu. Et d'une certaine manière, ça me rappelle un petit peu ce que faisait Mingus dans ses ruptures de tempo, dans ses compositions, notamment Orange was the color of a Dresden Steel Blue, bon, par exemple. Et ben là, c'est un peu le même esprit. Et vous allez voir également le clin d'œil aux Beatles. Donc on a deux fois les Beatles. Et après l'exposé du thème, le chorus de Benny Maupin, quand Lee Morgan prend son solo, il fait ce petit clin d'œil aux Beatles en mentionnant le thème Eleanor Rigby. Je pense que vous le reconnaîtrez, soyez attentifs. Et franchement, voilà, c'est un sommet. Et en fait, c'est le dernier. Je vous ai choisi la dernière version. Donc du quatrième, du huitième CD, donc c'est le quatrième set, ça a été enregistré le dimanche 12 juillet. Voilà, on sait que le samedi et le dimanche, l'énergie des musiciens est en général un petit peu plus survoltée. Voilà, c'est parti. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4 FM Paris et DAB+. Alors, dernière information, avant de passer la parole à Epsilonia, et de finir sur un extrait d'un dernier thème, Lee Morgan s'était également consacré à l'enseignement. Ces dernières années, il avait été un peu persuadé par je ne sais plus qui d'enseigner. Et à ses obsèques, c'est Harold Mabern, le pianiste, qui a tenu la partie musicale avec d'autres, mais toute la section cuivre était composée de ses élèves de ses élèves trompettistes. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important de noter. Alors, information importante également. Vous avez sans doute vu, pour ceux qui sont sur ma page Facebook, que je viens de créer une nouvelle page qui s'appelle Gabriel Maurice Claude et les autres, en abrégé GMC+. Alors, cette émission qui va se passer le deuxième jeudi du mois et qui va démarrer le 14 mars prochain, elle va être consacrée essentiellement aux musiciens français de la fin du 19e siècle jusqu'entre les deux guerres. Pourquoi ça? Pour plein de raisons. La première, c'est que j'aime cette période, j'aime cette musique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont connexes. Le début du cinéma, le surréalisme, l'impressionnisme, enfin énormément de choses qui étaient interchanges des débuts de Picasso. Enfin, et tous ces gens-là se sont rencontrés. Donc c'était vraiment une musique révolutionnaire pour l'époque. Ils étaient en rupture avec le classicisme habituel. Et donc évidemment Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Claude Debussy. Et j'ai mis les autres parce que, évidemment, il y a beaucoup d'autres musiciens. Je pense à Henri Sauguet, à Arthur Honegger, à Edgar Varèse, qui est connu plus aux États-Unis, mais qui était français et parti immigrer là-bas. Et puis, évidemment, faire un détour avec certains Russes, certains Hongrois ou certains Norvégiens, par exemple Bartok, Stravinsky, Rachmaninov ou Grieg. Bon, voilà, ce sont toutes ces musiques qui ont été un melting pot énorme. Et pourquoi? Notamment parce que Ravel connaissait, aimait beaucoup le jazz. Beaucoup de jazzmen avaient énormément de références, faisait souvent référence à Ravel. Donc voilà, il y a une sorte de filiation directe et je trouvais intéressant de faire découvrir quelques beautés de cette période et croyez-moi, il y a de quoi faire. Bien que je ne sois pas un musicien classique, j'ai quand même biberonné à ça pendant longtemps. Bref, nous commencerons donc le 14 mars c'est un peu en forme de gag. Voilà, pour tout le monde a vu le film Le Cochon Berger, et bien voilà, nous allons nous pencher sur la bande-son de ce film, et je ne vous en dis pas plus. Donc, je termine en vous disant goodbye Fraternis Wing, en attendant, j'espère que vous porterez bien et que cette émission vous aura apporté satisfaction, avec un extrait d'un thème qui s'appelle Absolution au pluriel, qui est issu du 4e set, donc le 11 juillet, le samedi 11 juillet 1970. Thème également de Jimmy Merritt. Alors, par un petit trait d'humour, Jimmy Merritt disait Absolution, ce n'est pas une solution en la bémol. Parce que, en fait, le A, c'est le La en anglais, hein, en notation anglo-saxonne, vous avez A, B, C, D, E, F, G, c'est-à-dire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, alors qu'en français, donc, voilà, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, pas tout à fait pareil. Donc, A, B, ce serait le La bémol. Donc, c'est des solutions à La bémol. Non, pas du tout. C'est vraiment le terme absolution, qui est, d'origine religieuse. Bon, bien que nous soyons ici à ni Dieu ni maître, l'absolution peut être un cheminement spirituel nonobstant. Voilà, goodbye Fraternis Wing, rendez-vous dans bientôt, voilà, pour la suite en jazz libre des nouveautés et des études comme ça, de thématiques que je trouve passionnantes. Et puis donc le 14 mars avec GMC+. Voilà, bye bye Fraternis Wing, merci et à très bientôt.
89.4. Ypsilonia.
Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire.
J'ai oublié le nom de la radio.
Radio Libertaire.
C'est Ypsilonia. C'est Ypsilonia l'émission.
Sa diffusion porte en germe son effacement progressif.
Vous êtes à l'écoute d'Ypsilonia sur Radio Libertaire.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, j'espère que vous êtes bien relax.
Radio Libertaire, la voix sans dénimée de la Fédération anarchiste.
Tu délires.